informativo da Rádio
França.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en anglais, Sarah Elsals.
Good evening.
Pour une nouvelle loi en Inde encadrant les mères porteuses, limitant ce qu'on appelle les usines à bébés. Thaïssa Stivanin, de la rédaction brésilienne.
Hola a todos.
À propos d'un partenariat entre chercheurs brésiliens et français pour développer la thérapie génique dans un hôpital qui soigne les pauvres. Alireza Manavzadeh, la rédaction persane.
De route Bachemont.
Pour les réactions des pays occidentaux à la répression du mouvement contestataire en Iran. Bonjour à vous tous. Justement, nous allons commencer par ce mouvement de contestation en Iran. Les troubles ont commencé le 15 novembre après l'annonce d'une réforme du mode de subvention de l'essence, censée bénéficier aux ménages les moins favorisés, mais s'accompagnant d'une très forte hausse du prix à la pompe. Mercredi, le gouvernement a proclamé la victoire face à un complot ourdi à l'étranger. Alors, faisons le point dans Accent du Monde. Alireza Manavzadeh, peut-être plus que toute autre rédaction, le service persan suit la situation avec beaucoup d'intérêt. Dites-nous tout d'abord, les raisons profondes de cette flambée de colère est-elle uniquement liée à cette hausse du prix de l'essence ?
Si on regarde de près l'évolution des événements, on aurait tendance à dire que l'annonce inopinée de cette hausse a été en réalité un déclic et le détonateur qui a mis le feu aux poudres. Les raisons économiques de cette hausse sont évidentes. Il y a plus d'un an, l'exportation du pétrole iranien s'est levée à 2,5 millions de barils par jour. À la suite de la reprise des sanctions américaines, elle est tombée à environ 500 000 barils. C'est ce que voulait le président américain lorsqu'il a dit qu'il allait asphyxier l'économie iranienne. Il y a à peu près 2 semaines, le président iranien a reconnu que la situation actuelle du pays était plus difficile que pendant la guerre Iran-Irak. La dégradation de l'économie du pays est telle que plus de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En augmentant de 50% le prix de l'essence, les autorités espèrent lever un peu plus de 2,3 milliards d'euros qui seront entièrement versés sous forme d'aides supplémentaires à 18 millions de familles à faible revenu, soit 60 millions de personnes.
3 Iraniens sur 4 sont donc pauvres, Alireza. D'autres chiffres concernant cette hausse du prix du carburant ?
Oui, avant cette hausse, un litre d'essence en Iran coûtait 8 centimes d'euros. Désormais, chaque conducteur payera 11 centimes d'euros par litre pour un maximum de 60 litres par mois. Au-delà, chaque litre supplémentaire coûtera 22 centimes. Vous allez peut-être me dire que c'est un prix dérisoire par rapport au prix de l'essence les pays.
C'est 1,50€ en France. 1,50€. Et là, on parle de 11 centimes.
Par exemple, en Turquie, chaque litre d'essence coûte 1,06€, soit 5 fois plus cher que son prix actuel en Iran. Et sa consommation est 11 fois inférieure à celle de l'Iran. En fait, les vidéos diffusées dans les réseaux sociaux montrent bien que ce sont plutôt les jeunes issus de la classe moyenne citadine qui sont dans la rue. Et à juste titre, depuis l'avènement de ce régime, la classe moyenne s'appauvrit jour après jour et ces jeunes n'ont plus d'avenir. Pas étonnant que leur protestation ait tout de suite pris une tonalité politique.
Avec donc une répression, quelles sont les raisons pour lesquelles les forces de sécurité ont réagi si violemment ?
Deux catégories sociales font très peur aux autorités iraniennes. Les classes populaires, dont ils connaissent la force parce qu'ils sont arrivés au pouvoir grâce à leur détermination, et la classe moyenne qui, depuis un siècle, est le vecteur, voire l'acteur de toutes les transformations de la société. En fait, la vraie résistance à ce régime, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan politique, vient de cette classe face à laquelle le régime se montre toujours impitoyable. Je vous invite à écouter le président iranien lors du Conseil des ministres de mercredi dernier.
Quelle est la teneur de son intervention?
Et il attribue le mouvement contestateur de ces derniers jours à, je cite, un plan conçu en commun par les États-Unis, Israël et certains pays réactionnaires de la région. Et il ajoute, je considère l'échec de ce plan comme une autre victoire de la nation iranienne et comme l'a bien dit le guide suprême hier soir, notre peuple a fait échouer à plusieurs reprises les plans de nos ennemis.
Voilà la théorie donc du complot défendue par l'exécutif iranien. Sarah Elsass de la rédaction en anglais. Concernant ces événements, la presse anglophone se penche particulièrement sur les coupures d'Internet qui coupent justement le pays du reste du monde.
Oui, en fait, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça. La coupure a duré 5 jours. Quasiment la totalité des Iraniens ont été privés d'Internet. Ça revient progressivement, là. Il y a 47 millions d'utilisateurs d'Internet en Iran. En particulier, ils utilisent les applications Telegram et Instagram. Et pendant les coupures, ça a vraiment mis fin un peu aux posts sur ces réseaux sociaux. Et ça a rendu un peu assez difficile de savoir, en dehors de l'Iran, ce qui se passait vraiment sur le terrain.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ces coupures d'Internet et des réseaux sociaux, hein, au sens large, eh ben, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Iran.
Non. Et pendant les manifestations, par exemple en 2017-2018, l'Internet a été interrompu. Mais les experts là disent que la coupure de cette semaine a été vraiment unique dans son échelle, aussi sa complexité. Apparemment aussi, c'était l'opportunité pour le gouvernement de tester une Internet interne qui a été développée depuis 10 ans. Ils appellent ça l'Internet national, ou je pense un peu... ils disent le Halalnet. C'est un réseau qui fonctionne sur des serveurs à l'intérieur de l'Iran, sur lequel on trouve les services publics, par exemple les hôpitaux, les banques et des entreprises ont été mis sous pression de transférer leurs opérations sur cette Internet interne. Et du coup, même si les Iraniens ont été coupés du monde par le biais des réseaux sociaux, les banques, les autres transactions financières ont fonctionné, plus ou moins. Ce qui a été soulevé, et que les sanctions des États-Unis, de Trump, ont rendu plus facile justement la tâche du gouvernement de faire ça, parce que bah, ça a forcé un peu la main. Il y a aussi des commentateurs qui disaient que des autres régimes répressifs dans le monde sont en train de regarder de près la situation en Iran. Les gouvernements autoritaires plus en plus essaient d'utiliser les interruptions d'Internet pour écraser le désaccord, disons. Et il y a des rapports de coupures, par exemple, à Hong Kong récemment, en Irak. Le Cachemire contrôlé par l'Inde, par exemple, l'accès à Internet a été coupé depuis 3 mois.
Ouais, boucler le robinet, boucler l'information. Vous avez donc des difficultés, Ali Reza Malabzadeh, pour joindre des gens en Irak, leur demander leur témoignage.
Justement, tout à l'heure, j'essayais de trouver un son sur Internet. Je n'ai pas pu parce que on n'a pas accès à l'Internet.
Taïssa Stivana, la rédaction brésilienne, est-ce que le Brésil se sent concerné par ce qui se passe en Iran?
Pour l'instant, le gouvernement brésilien ne s'est pas encore prononcé sur les récentes manifestations en Iran, qui est un partenaire commercial de longue date au Brésil, avec le Brésil. Et l'année dernière, le Brésil a exporté à l'Iran l'équivalent à 2 milliards 260 millions de dollars. L'Iran est le marché le plus important pour les maïs brésiliens. Il est aussi un grand consommateur de la viande bovine et du soja aussi. Les deux pays ont également signé ces dernières années plusieurs contrats qui portent notamment sur les énergies renouvelables, la science, la technologie, l'industrie. Et depuis les années 2000, en fait, il y a eu un rapprochement plus intense entre les deux pays avec Lula au pouvoir. On rappelle aussi qu'en 2018, avant que le président d'extrême droite Jair Bolsonaro n'arrive au pouvoir, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, Mohamed Javad Zarif, vous me corrigez s'il vous plaît, a été au Brésil. C'était la dernière visite officielle d'un responsable iranien au pays.
Alors justement, Philippe, qu'est-ce qui a changé depuis que Jair Bolsonaro est arrivé à la présidence au Brésil, c'est-à-dire depuis le début de l'année?
Alors, du point de vue politique, disons que les choses se sont un peu compliquées. Bolsonaro est très proche du président américain Donald Trump et de ses prises de position controversées, ce qui, à l'heure actuelle, naturellement éloigne le Brésil de l'Iran d'une certaine façon. Par contre, rappelons qu'au lendemain de son investiture en janvier, Bolsonaro a confirmé son souhait de transférer à Jérusalem l'ambassade du Brésil en Israël, mais elle reste toujours à Tel Aviv. Et cela montre d'une façon qu'on a toujours du mal à savoir si certaines de ces déclarations doivent être réellement prises au sérieux ou pas. et de quelle façon elle pourrait impacter les relations internationales. Concrètement, au-delà du buzz provoqué par ses commentaires et ses annonces, lors de sa dernière visite au Moyen-Orient, d'où il est revenu fin octobre, Bolsonaro n'a été qu'en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar, tous les trois des majorités sunnites. Il est donc resté fidèle à son idée de suivre et de soutenir les États-Unis en matière de politique étrangère.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en Iran dans Accent du Monde.
Accent du monde. Philippe Lecaplin.
Ali Reza Manavzadeh, continuons sur les événements en Iran avec cette fois les réactions internationales. Commençons par celle de la France.
Mercredi dernier, le ministère des Affaires étrangères a exprimé par la publication d'un communiqué sa vive inquiétude face aux informations faisant état de la mort de nombreux manifestants au cours de ces derniers jours. La France a réagi au lendemain de la réaction de l'ONU et d'Amnesty International qui se sont alarmés d'un très lourd bilan pouvant dépasser les 100 morts. Le communiqué du ministère ajoute que la France rappelle son attachement au respect de la liberté d'expression et à l'accès aux moyens de communication ainsi qu'au droit à manifester pacifiquement. L'Allemagne a également condamné les actions disproportionnées des forces de sécurité. Dans un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, elle a appelé les forces de sécurité iraniennes à faire preuve de la plus grande retenue et a déclaré qu'elle attend des dirigeants iraniens qu'ils lèvent complètement le blocus d'Internet
dont on vient de parler. L'Union européenne, quant à elle, a également réagi. Les 27 ont exhorté le pouvoir iranien à la retenue.
Tout à fait. L'Union européenne, par la voix de sa haute représentante aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, a appelé les autorités iraniennes à faire preuve de la plus grande retenue dans la gestion des manifestations. Dans son communiqué, il est dit que les difficultés socio-économiques peuvent se résoudre par le dialogue et non pas par la violence. Nous appelons les forces iraniennes à éviter les violences et les manifestants à protester pacifiquement.
Et il semble que les Américains aient réagi plus vite que les Européens, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Dès le lendemain du déclenchement du mouvement, le gouvernement américain a apporté son soutien aux manifestants par un message de Mike Pompeo. Le 16 novembre, le secrétaire d'État américain a écrit sur Twitter « Comme je l'avais dit au peuple iranien il y a presque un an et demi lors des manifestations précédentes, les États-Unis sont avec vous. » Mais le président américain a réagi hier. Il a accusé Téhéran d'essayer, en coupant l'accès à Internet, de cacher aux Iraniens et au monde la tragédie en cours dans ce pays touché par un vaste mouvement de contestation.
Et bien sûr, l'Iran, pour sa part, accuse les États-Unis de soutenir ce qu'elle appelle les émeutiers. C'était Ali Reza Manavzadeh, la rédaction persane de RFI. Quant à la rédaction anglophone, elle a particulièrement suivi les travaux des députés indiens. Il y a en effet un projet de loi qui interdira la commercialisation des mères porteuses. Alors que depuis 2002, c'est devenu une véritable industrie, Sarah Alsace. Le gouvernement veut donc arrêter cette exploitation.
En effet, donc il y a eu un projet de loi introduit en juillet par le ministre de la Santé, Harsh Vardhan. Ça a été vite approuvé par les députés de la Chambre du Peuple. C'est la chambre basse du Parlement indien. Et cette semaine, donc, c'est le tour du Conseil des États, où c'est la chambre haute du Parlement. En s'adressant à eux, le ministre Vardhan a prévenu que vraiment, c'est une industrie qui opère sans surveillance. On l'écoute.
In the absence of regulation in India, India has unfortunately emerged.
Quel est son propos ?
Donc il dit là, dans l'absence de régulation, l'Inde est devenue un centre pour les couples d'autres pays qui cherchent des mères porteurs. On estime, il dit, qu'il y a 2000 enfants étrangers nés de cette méthode en Inde chaque année.
En France, des mères porteuses ont pris la parole dans le contexte des débats autour de ce qu'on appelle la PMA. Rappelez-nous de quoi il s'agit précisément.
Oui, donc en fait, c'est quand une femme porte le bébé de quelqu'un d'autre, un embryon.
Création médicale pour autrui, PMA.
C'est ça, PMA, voilà. C'est, procréation médicalement assistée. Et la GPA, c'est la gestion pour autrui. Voilà.
Mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est un vrai débat en France.
Bah, c'est un vrai débat en France parce que, en fait, et là, particulièrement, les mères porteuses, c'est quand une femme porte le bébé de quelqu'un d'autre, c'est l'embryon qui est implanté, elle porte le bébé à terme et, en fait, quand le bébé est né, ça devient l'enfant du couple bénéficiaire. Donc, c'est un geste altruistique aussi, c'est rémunéré.
En tout cas, c'est interdit en France.
C'est interdit en France, ça c'est sûr. L'Inde a ouvert ce marché en 2002. C'est devenu vraiment une industrie, 3,3 milliards d'euros, c'est une valeur. Et les mères porteuses en Inde sont payées dans les alentours de 5 000 euros, ce qui est 5 fois moins cher qu'une mère porteuse aux États-Unis. Donc beaucoup de couples américains se tournent vers l'Inde. Pour les femmes indiennes, 5 000 euros représentent énormément d'argent.
C'est
On pense
fortune.
Que le salaire mensuel est dans les 130 euros par mois, donc c'est énormément d'argent.
Alors avec un tel afflux d'argent, le gouvernement indien considère les cliniques comme des usines à bébés, pour les riches,
ouais.
Et des cliniques qui exploitent des femmes qui ne comprennent pas forcément toujours ce qu'elles signent en échange d'argent.
En effet, la législation donc interdira la commercialisation de la pratique. Il y aura des peines de prison allant à 10 ans avec des amendes. Les mères porteuses donc seront que permises pour les Indiens. Les proches pourraient porter les enfants des membres de leur famille. Il y a des députés qui préviennent que cette provision pourrait mettre la pression sur des femmes par des familles aussi, donc il y a des problèmes là. La législation aussi interdit toute personne, sauf les couples mariés, à bénéficier de ça. C'est une interdiction que Rajiv Gwanda, un député du parti Congrès dans l'opposition, dit est dépassée.
We are living in 21st century India. This is a time when people are single, people also desire.
Donc il dit là, nous vivons dans l'Inde du 21e siècle, quand même les personnes célibataires voudraient des enfants, il n'y a aucune raison de retourner en arrière, les personnes célibataires, divorcées, couples du même sexe, couples dans lequel l'un n'est pas indien, toutes ces personnes sont privées dans cette législation, telle qu'elle est écrite, il encourage donc des changements. Cette législation est soutenue par tous les partis politiques, même s'il y a vraiment des demandes de modifications, amendements, c'est pourquoi ça a été envoyé en commission. Le ministre de la Santé a demandé un rapport avant la prochaine session du Parlement l'année prochaine.
Sarah Elsass de la rédaction anglophone de RFI. Intéressons-nous maintenant au Brésil avec ce partenariat entre une chercheuse franco-italienne basée à Paris et une équipe de médecins brésiliens de Ribeirão Preto, ville située dans l'état de São Paulo. Thaisa Stivanin, dites-nous en plus sur le travail du docteur Cavazzana, qui est donc hématologiste à l'hôpital Necker à Paris, pionnière de la thérapie génique.
C'est un très beau projet qui nous permet de parler d'autre chose que l'actualité politique au Brésil, et aussi rappeler que la recherche dans les pays, y compris dans la médecine, est très avancée et ne laisse absolument rien à désirer aux pays les plus développés. Pour revenir à ces partenariats, il vise surtout développer la thérapie génique au Brésil, comme vous l'avez bien dit. Le docteur Marine Cavazzana connaît parfaitement le protocole pour cette technique qui est porteuse d'espoir pour plusieurs malades atteints de pathologies graves.
Expliquez-nous comment fonctionne cette thérapie justement.
Elle permet de corriger certains gènes défectueux en laboratoire. Dans le cas du Brésil, elle a vu surtout aider les patients atteints de drépanocytose ou l'anémie falciforme. Pour la traiter, les chercheurs placent un gène d'hémoglobine fœtale issu de cellules souches dans les cellules de la moelle osseuse des malades. Et cela permet à l'organisme de produire des globules rouges normaux au lieu de cellules modifiées en forme de fossiles responsables de cette pathologie héréditaire.
Dans le cadre de ce partenariat, le docteur Cavazzana a donc invité le pédiatre brésilien Luiz Guilherme Darigo Jr. à passer quelques mois en France à l'Institut Imagine, où elle mène plusieurs projets.
Oui, exactement. Le docteur Garrido est spécialiste dans la greffe de la moelle osseuse, chirurgie qui a proposé aux patients pour traiter cette maladie, mais elle dépend de donneurs compatibles. Le pédiatre brésilien est à Paris pour travailler aux côtés de la chercheuse française et son équipe et perfectionner ses connaissances à propos de la thérapie génétique qui pourrait être une solution dans l'absence des donneurs. J'ai eu l'opportunité de l'interviewer à l'Institut Imagine dans le 14e. On l'écoute.
Ribeirão Preto tem um destaque no cenário brasileiro.
Alors, que vous a-t-il dit?
Il dit que la ville de Ribeirão Preto est réputée au Brésil pour les greffes de la moelle osseuse chez les patients atteints d'anémie falciforme. Nous sommes les pionniers dans ce genre de traitement pour les enfants, dit-il, et aussi des adultes porteurs de la maladie. Et nous pensons que la thérapie génique peut soulager quelques patients qui n'ont pas des donneurs.
À retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI en brésilien, Thaïssa. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde sur RFI.